hors champ. Hors champ avec Pierre Rosanvallon, seconde émission. Pierre Rosanvallon, nous avons évoqué hier votre itinéraire à la fois familial, d'engagement syndical, d'intellectuel ayant pris conscience très tôt de la manière dont nos sociétés étaient régies et de ce mot très étrange de démocratie. On s'aperçoit au fil du temps, au fil de vos ouvrages et de vos travaux que vous essayez de représenter et de nous transmettre, à nous lecteurs, ce que nous ressentons et ce que nous avons à exprimer individuellement. Et que ça, c'est très difficile pour un intellectuel, même quand il est très connu, très reconnu, comme vous l'êtes, professeur au Collège de France, éditeur d'une collection très importante, inventeur de ce Parlement des Invisibles, etc., etc. Et donc, comment on fait pour traduire chacun d'entre nous qui avons une voix? Au fond, c'est un de vos problèmes récurrents dans tout votre travail.
Oui, je l'ai. C'est un problème que je me suis posé parce que pendant près de 4 ans, j'ai animé la revue de réflexion de la CFDT. Et cette revue de réflexion, qui s'appelait CFDT aujourd'hui, avait aussi comme contenu des articles de réflexion, mais des articles d'enquête sur le terrain. Et des articles d'enquête qui étaient faits à partir soit de réalité du travail, de conditions de travail, soit d'analyse d'un conflit social, d'une grève. Et à ce moment-là, j'ai compris en allant faire ces enquêtes que ce qui était important, c'était d'être capable d'essayer de mettre les mots adéquats sur ce que vivaient les gens. Et au fond que ça peut être une définition de la politique. La politique, c'est mettre un mot sur ce que vivent les gens, un mot dans lequel ils se retrouvent, mais un mot qui est exprimé des phrases, dans des termes qui leur donnent la possibilité aussi de le maîtriser autrement. Et ça, je crois que c'est un langage, disons, d'émancipation qui est celui de l'histoire du mouvement ouvrier. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est cela. C'est être capable de raconter des réalités vécues pour permettre d'en être l'acteur et non pas simplement celui qui est soumis. C'est même si on est dans une position de difficulté, d'exploitation, mais c'est renverser le rapport de force intellectuel à sa vie. Ne plus simplement être dans une condition de soumission, mais être dans une salle où on prend l'initiative. Et pour cela, donc, dans la façon dont il y a bien des façons d'aborder la question de la démocratie. Mais moi, j'ai d'abord essayé de l'aborder à partir du répertoire de ces expérimentations. Et c'est pour ça que je me suis tôt intéressé à la Révolution française, non pas simplement à une histoire des principes, mais à une histoire, en quelque sorte, des expérimentations et des difficultés. Constatez, par exemple, que dès septembre 1789, on voit se multiplier les pamphlets en disant « Ah, il y a la mise en place d'une nouvelle aristocratie de la représentation ». Donc, cela veut dire que on met en place un principe de représentation parce que on vit alors dans un grand pays. N'oublions pas qu'au moment de la Révolution française, la France a 25 millions d'habitants, quand les États-Unis n'en ont que 2 millions et demi. Donc, les États-Unis, c'est un petit pays. C'est un pays dans lequel il y a effectivement des communautés d'habitants qui s'autogèrent, hein, ce qu'on appelle les town meeting halls, qui ont été très 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 importants dans l'Amérique de la Nouvelle-Angleterre. Et donc, principe représentatif. Mais tout de suite, on voit que la représentation est à la fois une solution et un problème. Donc j'ai essayé de réfléchir historiquement à faire en quelque sorte une grammaire de toutes ces institutions, de toutes ces pratiques qui étaient à la fois des solutions et des problèmes. Et de voir, d'essayer de voir où et quand était le dérapage. Quand est-ce que l'institution ne remplissait plus en quelque sorte la mission théorique qui lui avait été confiée. Donc c'est une... Je n'ai pas abordé la démocratie à partir d'une théorie avec laquelle j'aurais essayé de lire la réalité, mais j'ai essayé de comprendre les méandres de la démocratie, la difficulté de la conquête démocratique. Par exemple, si on regarde la question du suffrage des femmes. Le suffrage des femmes, il ne faut pas simplement dire de façon très générale, c'est le monde masculin, phallocratique, qui diminuait la femme. Il faut aller, me semble-t-il, plus loin, de voir pourquoi, par exemple, on a considéré que la femme n'était pas un individu comme les autres. Donc à ce moment-là, ce n'est pas simplement la domination, je dirais, d'une figure sociale. C'est aussi son assignation à une certaine position dans la société. C'est une certaine vision du couple. Proudhon, par exemple, disait que donner le suffrage aux femmes, ce serait introduire le divorce dans les familles. Donc vous voyez que...
Et il était soi-disant de gauche, considéré comme de gauche.
Sur certains plans, il a été un grand dénonciateur de tout un mysticisme démocratique, disait-il, qui en fait était une façon simplement de mettre le peuple sous des bannières organisées. Donc voilà ce qui était un peu l'essentiel de ma réflexion sur la démocratie, c'est de lier cette réflexion à une histoire, car l'histoire, au fond, c'est un laboratoire des problèmes de la démocratie. Et l'histoire, je l'ai toujours comprise comme aussi le laboratoire de notre présent. C'est pas simplement des références du passé. C'est un autre laboratoire à voir.
On le voit bien avec Nuit Debout. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce mouvement, mais en tout cas, il s'inspire de certains principes de la Révolution française.
Oui, il s'inspire.
L'abolition du temps, le Parlement, etc. Voilà. Et d'ailleurs, de certains de vos principes à vous, Pierre Rosanvallon.
Là, disons que c'est je ne sais pas si on peut parler de mouvement. En tout cas, c'est une expérimentation qui est d'ailleurs essentiellement une expérimentation, je dirais, de délibération. Une expérimentation de prise
c'est
de parole.
C'est le Parlement des invisibles.
C'est... un parlement d'invisibles, disons. Mais des invisibles, il y en a beaucoup. On vient de publier dans la collection Raconter la vie le témoignage d'un ouvrier travaillant dans un abattoir près de Rennes. Et j'ai été à la fin du mois de mai participer à une réunion syndicale organisée autour de ce témoignage et une analyse de ce qu'était l'évolution des conditions de travail dans ce monde de l'agroalimentaire. Je crois qu'il y a des expériences qui sont des expériences...
D'ailleurs, ce bouquin, il faut y revenir quelques instants, parce que ce bouquin, loin des polémiques qui ont été suscitées, je crois, de manière assez légitime par ces vidéos atroces qui montraient des techniques d'abattage absolument illégales, eh bien, ce témoignage que vous avez publié montre qu'il y a aussi d'autres manières de travailler.
Bien sûr, il y a d'autres manières de travailler et il ne faut pas plaquer. Il faut vraiment être à côté de l'acteur pour saisir ce qu'il vit, comment il réagit, comment il se reconstitue, comment il résiste, comment il compose avec les difficultés, comment il retrouve de la dignité aussi. Ce témoignage, par exemple, ce livre de Stéphane Geffroy, L'abattoir, c'est aussi l'histoire de la façon donc quelqu'un retrouve de la dignité dans son travail, mais aussi dans l'organisation collective. Comment il a su, après avoir suivi des stages, prendre la parole. Lui qui est un taiseux par rapport à des beaux parleurs. Je crois que c'est aussi ce grain de l'invention, de la résistance, ce grain de la reprise, en quelque sorte, de maîtrise sur les choses qu'il faut raconter. Et l'historien doit faire son miel, justement, d'une histoire comprise comme tout un ensemble de laboratoires, et qui ne sont pas simplement, évidemment, occidentaux, parce que des laboratoires de la délibération collective, il y en a dans bien des sociétés différentes. Et Amartya Sen avait raison de parler de la démocratie des autres, des assemblées. Après tout, dans sa guerre des Gaules, Jules César parlait déjà des assemblées de guerriers. de guerriers gaulois qui discutaient en commun et qui manifestaient leur approbation en agitant leur javelot, par exemple. Il y a aussi toute l'histoire de la délibération dans les ordres monastiques de différents continents, que ce soit en Asie ou que ce soit en Occident. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de repérer. Je ne peux pas tous les explorer. Chacun d'entre nous est limité et je travaille avec beaucoup de personnes qui travaillent sur des laboratoires différents des miens, mais de repérer des laboratoires d'expérience qui puissent être fructueux pour notre compréhension du présent.
Nous allons écouter la voix d'un homme qui a beaucoup compté, je pense, dans votre itinéraire. Il s'agit de François Furet. Nous allons l'écouter au micro de Gilles Lapouge. Il va s'exprimer sur le jacobinisme. C'est une archive du 8 janvier 1979.
Au fond, je crois que le cœur de la Révolution française, c'est le jacobinisme. Et là-dessus, je serais tout à fait d'accord avec l'historiographie de gauche, je dirais, et Cochin aussi. Mais je ne pense pas le jacobinisme comme un pouvoir réel du peuple, comme un pouvoir du peuple empirique. Je pense le jacobinisme comme un système de légitimité politique, ce qui est tout à fait différent, système de légitimité politique qui inverse le système du droit divin des rois. Mmh. Autrement dit, pour moi, le jacobinisme est un absolutisme du peuple. Mmh. Et c'est à travers ce concept que je récupère l'idée de la continuité. Bien que le jacobinisme soit un système de légitimité contradictoire avec l'absolutisme de droit divin, il conduit à la reconstruction d'un État absolu, j'entends par absolu, un État qui soit transparent au social, c'est-à-dire un État qui absorbe l'ensemble de la société et qui n'autorise pas de dissentiment de la part de la société. L'État jacobin est aussi absolu que l'État monarchique dans la mesure où il recouvre absolument le social.
Les enseignements de François Furet aujourd'hui, comment les considérez-vous? Et pensez-vous, comme certains historiens de la démocratie, que encore aujourd'hui en 2016, pour pouvoir comprendre le fonctionnement politique de notre démocratie, il faut revenir à ces principes de la Révolution française?
Il faut revenir, je dirais, aux expériences de la Révolution française. Au fond, François Furet est parfois un peu démonisé aujourd'hui en disant c'est une interprétation libérale de la Révolution française.
Bah vous aussi vous êtes démonisé, hein.
Peut-être, mais je crois que la qualité première de François Furet, c'est justement d'avoir essayé de considérer la Révolution française avec ses problèmes et de ne pas l'avoir considéré simplement à partir de ses principes. Parce que au moment où il a publié « Penser la Révolution française », certains ont dit « il abandonne les principes ». Donc, on le voyait comme un combat de position. Il y avait une interprétation libérale et il y avait une interprétation jacobine. Alors, cette distinction a une part de vérité, mais je crois que beaucoup de ceux qui se disaient, en tout cas, les défenseurs d'une vision jacobine, voyaient comme s'il y avait un capital déjà constitué qui, hélas, aurait été progressivement un peu abandonné et qu'il faudrait faire revivre ce capital. Et sans analyser ce qui était le propre de l'analyse de Furet, qui sur ce point-là, d'ailleurs, se retrouvait parfaitement avec Claude Lefort. C'est pour ça que ces deux personnalités qui s'entendaient très bien, de même que Castoriadis s'entendait très bien intellectuellement avec Claude Lefort, c'est de prendre cette Révolution française comme justement un problème. En essayant en même temps de ne pas plaquer ce qui avait été le cas pour le coup d'un certain nombre d'interprétations libérales, en ne faisant pas simplement du jacobinisme, si je puis dire, le précurseur du totalitarisme. Cela, François Furet ne l'a jamais fait. Parce que, à partir du moment où des problèmes sont tous ramenés à une même catégorie, eh bien, on perd en intelligibilité. Je crois que il y a une sociologie du jacobinisme dans lequel qu'on peut rapprocher d'une certaine sociologie des partis politiques, par exemple. Ben, la façon dont, dans un groupe, il y a une radicalité qui prend le pouvoir. C'est de la dynamique de groupe ou de la sociologie d'un groupe. Mais c'est autre chose, ça c'est une validité, mais c'est autre chose qu'une analyse, on pourrait dire, idéologique générale.
Aujourd'hui, vous avez publié un bouquin qui s'intitule « Le bon gouvernement », que je conseille à tous et à toutes dans ces temps un peu tourmentés. Voici ce que vous écrivez au début. Je vous cite, « Nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. Démocratie largement inachevée. Les représentés se sentent souvent abandonnés par leurs représentants statutaires. Et le peuple, passé le moment électoral, se trouve bien peu souverain. Nous sommes à pratiquement un an des futures élections présidentielles et déjà nous sommes, en quelque sorte, en pré-campagne. Vous l'avez dit dans la première émission, nous vivons un peu partout en Europe, et pas seulement en Europe, aux États-Unis aussi, un regain ou un retour du populisme. Comment faire en sorte que le peuple puisse avoir une autre expression de ses aspirations à la démocratie sans passer par le populisme ?
Ce qu'on peut appeler le populisme, c'est-à-dire la position qui est celle de Trump aussi aux États-Unis, celle de Kaczynski, celle d'Orban, c'est en quelque sorte le résultat aussi de tous les échecs, le résultat des impuissances, le résultat des abandons. Et je ne vois pas du tout le populisme comme une construction positive, mais comme la somme, au contraire, de tous les échecs, de tous les abandons, de tous les désertions qui ont été celles, je dirais, des partis traditionnels. Et la première de cette désertion, c'est justement de ne plus avoir trouvé les moyens d'exprimer la réalité telle qu'elle était vécue. Je ne pense pas que les populistes le font, mais au moins ils dénoncent le fait que ça ne se fait pas.
Et ils promettent que ça va se faire.
Et ils promettent que ça va se faire. L'histoire des partis politiques, ça a été à la fois une histoire de la représentation, mais c'était une histoire de la production d'une identité collective. Pour les communistes ou les socialistes, la fierté d'appartenir au monde populaire et le sentiment que on était embarqué dans une aventure collective dans laquelle on comptait pour quelque chose. Aujourd'hui, les partis politiques se sont coupés de la société. Pourquoi ? Parce que les partis politiques n'ont plus tellement une fonction de représentation. Les partis politiques ont d'abord une fonction de soutien ou de critique du gouvernement. Et quand on voit qu'aujourd'hui, même le parti communiste, historiquement, c'est quand même un bouleversement énorme, n'a plus qu'un seul député de lointaine origine ouvrière.
Et qu'il y a eu... Et le mot ouvrier a disparu des discours politiques.
Et le mot ouvrier a disparu des discours politiques, alors que les catégories de l'INSEE montrent qu'il y a des ouvriers, mais ils sont différents. Quand on avait des ouvriers rassemblés dans des forteresses ouvrières, les 40 000 personnes qui étaient à Boulogne-Billancourt, ceux qui étaient à Sochaux, ceux qui étaient chez Michelin, Clermont-Ferrand, à ce moment-là, la représentation, elle avait une réalité physique immédiate, c'était ces blocs. Aujourd'hui, où sont justement ceux que l'INSEE continue à appeler les ouvriers, c'est les chauffeurs-livreurs, par exemple. Mais ces chauffeurs-livreurs ou les dépanneurs, ils sont émiettés dans le tissu social. Ils circulent partout, mais ils n'existent pas comme une espèce de force physique avec une présence évidente. Le monde ouvrier en pleine croissance aussi, c'est celui qui travaille dans tous ces entrepôts logistiques qu'on voit à la sortie des grandes villes ou près des carrefours autoroutiers. Alors bien sûr, il y a des monstres, entre guillemets, comme Amazon. Et on sait qu'il y a des milliers de travailleurs qui sont dans le centre Amazon de Montélimar ou de Saran au nord d'Orléans, par exemple. Mais il y a aussi toute une diffusion de ce tissu des boîtes logistiques. Et c'est là qu'est le monde ouvrier. Et c'est cela qui n'est pas...
Personne ne leur parle.
Personne ne leur parle et c'est pour cela que j'ai lancé cette expérimentation, ce laboratoire, je devrais plutôt dire, qui s'appelle Raconter la vie. C'est justement pour donner en quelque sorte une voix, une présence physique à ces catégories, à ces espaces qui ne sont plus ceux, je dirais, du monde ouvrier traditionnel, parce qu'effectivement, ce monde ouvrier traditionnel de la chaîne automobile, il n'existe plus. Mais en revanche, ce qui existe bien, c'est les chaînes dans l'agroalimentaire. Mais dans l'imaginaire social, l'ouvrier de l'automobile, c'est quelque chose qui a compté. L'ouvrier qui met en boîte des petits pois chez Bonduel dans le Nord, qui tord le cou à des poulets chez Doux dans le Finistère, ou de celui des abattoirs du reste de la Bretagne, c'est ça qui n'est pas assez connu. Et au fond, un grand problème du monde politique, c'est que trop préoccupé en quelque sorte par ces échéances de pouvoir, de contrôle, de bataille, il est très loin des préoccupations de la société.
Alors comment ranimer la démocratie? Comment réinstaurer la parole des citoyens à l'intérieur de partis complètement fatigués, épuisés et auxquels les citoyens ne croient plus guère? Comment encourager les citoyens à aller voter? Toutes ces questions, vous voulez poser en tant que historien, certes, en tant que sociologue aussi, en tant qu'intellectuel, entre guillemets, engagé. Faut-il véritablement une révolution institutionnelle? Est-ce qu'il faut aspirer à une 6e République? Ou est-ce que il faut réinstaurer de la confiance, et comment? Puisque le dernier chapitre de votre dernier bouquin s'intitule « La démocratie de confiance », comment réinstaurer ce pacte de confiance? Faut-il changer de république?
Le mot « changer de république », c'est une expression générique. Si « changer de république », cela veut dire qu'il faut en quelque sorte refonder la démocratie, tout à fait d'accord. Mais beaucoup de ceux qui emploient l'expression « changer de république » l'emploient dans un sens institutionnel ou constitutionnel plus étroit, qui est, d'une manière générale, pour faire vite, de réduire la dimension présidentielle de notre démocratie pour les reparlementariser. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, même si il y a certainement des éléments dans cette direction dans lesquels il faut aller. Je crois qu'il y a un petit peu trois tableaux de la reconstruction de la démocratie. Un premier tableau, d'abord, c'est faire qu'une partie de la vitalité démocratique, elle soit prise en main par la société. La délibération, n'attendons pas simplement d'être associé, entre guillemets, à ce que font les parlementaires. Il faut faire vivre la délibération dans la société. La représentation, c'est la même chose. La représentation, elle est produite quand on vote pour avoir un délégué, un porte-parole. Mais la représentation, c'est aussi voir sa vie racontée.
Mais encore faut-il que les parlementaires, qui sont soi-disant nos représentants, accomplissent leur mission. Parce que quand on regarde les délibérations à l'Assemblée nationale, y compris dans des moments de crise de la démocratie pendant la loi travail, on voit que l'hémicycle est quasiment vide. Voilà, alors comment faire confiance à des gens qui n'inspirent pas notre confiance?
Écoutez, on peut dire qu'il y a une triple échelle des choses qu'on peut... Il y a des choses à changer. Hein. Il y a les institutions politiques et les partis. Il y a les partis, les institutions politiques et je dirais la vitalité démocratique de la société elle-même. Je vous l'avoue franchement, je suis pessimiste sur l'évolution des partis politiques. Alors de temps en temps, on voit en Espagne un Ciudadanos, un Podemos arriver. De temps en temps, on voit certains en France vouloir des mouvements qui marchent ou qui courent plus vite que les autres. Très bien, mais beaucoup de ces rénovations, soyons lucides, ces rénovations, elles produisent des effets immédiats dans un premier temps, mais il y a une tendance à ce qu'elles soient happées d'une manière ou d'une autre, tout de même, par un système clos sur lui-même. Donc, je serai relativement, bien sûr, il faut des innovations, mais je n'attendrai jamais tout simplement du lancement de nouveaux partis qui enfin seraient des partis de purs, seraient des partis de généreux, seraient des partis de proximité et qui eux...
Des partis nini.
Et voilà, et qui par leur vertu rénoveraient à eux seuls la démocratie.
Ça viendra de chacun de nous.
Ça viendra de deux choses. D'abord au niveau des institutions. Parce que le problème, s'il y a ces formes du mal-gouvernement, c'est également parce qu'il n'y a pas assez de contre-pouvoir dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas assez de reddition de comptes. Parce qu'il n'y a pas assez de mise en jeu de la responsabilité. Donc c'est pour ça que dans ce livre, Le bon gouvernement, j'essayais de faire en quelque sorte un catalogue. Non pas simplement des nouvelles conditions de nomination des gouvernants. Beaucoup de personnes disent, faudrait nommer différemment les gouvernants et surtout, nommons des bons à la place des mauvais. Ben, je crois que les institutions démocratiques, ça doit être des institutions qui ne se préoccupent pas simplement de savoir si les gens sont bons et mauvais. Si on met des institutions avec plus de transparence, de reddition de comptes, de lisibilité, de mise en jeu de la responsabilité, à ce moment-là, la démocratie, elle vient des vertus de ces institutions de contrôle, de ces institutions qui obligent à de la délibération, de ces institutions qui obligent aussi à la mise en jeu de la responsabilité. Après tout, certains pays, on voit le cas du Brésil aujourd'hui, ont des mécanismes de destitution dans des situations exceptionnelles. La Constitution française, d'ailleurs, le prévoit, mais dans des conditions absolument irréalisables. Donc, je pense que c'est très bien d'espérer que le monde politique se rénove par l'arrivée sur le devant de la scène des bons, des vertueux et des gentils, mais qu'il faut aussi des institutions qui consolident. Et, en troisième lieu, une société démocratique, ça veut dire une société vivante, une société qui n'attend pas que d'autres la représentent, mais qui se représente elle-même. Après tout, dans les années 1830-1840, je suis un historien, donc je regarde bien le passé aussi, il n'y avait pas encore le suffrage universel à ce moment-là. Mais il y avait production d'énormément d'enquêtes ouvrières, ce qu'on appelait les enquêtes ouvrières. Il y avait toute une littérature des poètes ouvriers, il y avait toute une littérature qui racontait la société. Et les gens se sentaient représentés parce que ce qu'ils vivaient était raconté, était présent, était compté dans la société. Donc vous voyez, si je suis relativement pessimiste, tout en espérant que des choses changeront, pour remplacer des politiciens repliés sur eux-mêmes par des personnalités vertueuses et ouvertes, je pense aussi qu'il faut au premier chef, parce que cela, on peut en attendre des effets plus sûrs, c'est avoir des transformations institutionnelles pour mettre en place tous ces éléments de délibération, de contre-pouvoir que théoriquement, les parlements devraient mettre en place. Mais les parlements, ils sont d'abord là pour être pour ou contre un gouvernement. Et qu'au fond, leur fonction de délibération, elle est un peu atrophiée. On le voit bien avec cet épisode du 49-3 pour la loi El Khomri. En fin de compte, on est pour la destitution du gouvernement ou pour son maintien. Et donc, la délibération a été squeezée. Voilà. Et il faut en quelque sorte faire émigrer en dehors des assemblées tout un ensemble de ces fonctions démocratiques, des fonctions de contrôle, des fonctions de délibération. Il faut qu'elle n'ait pas simplement lieu dans l'Assemblée nationale.
Dernière question, Pierre Rosanvallon. Les dernières pages de votre dernier livre s'intitulent « Retrouver un rapport positif à l'avenir ». Est-ce que le regain de la démocratie, il ne passe pas justement, non pas comme le disait Ernst Bloch, le principe espérance, mais en tout cas dans une possibilité de croire en notre avenir?
Je crois que l'histoire de la démocratie, on peut dire même l'histoire moderne de l'humanité, c'est une histoire de l'émancipation. Et que cette émancipation, elle a eu ses moments d'avancée, elle a eu ses moments de doute et elle a eu ses moments de recul. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de doute et de recul. Et nous avons besoin aussi de redonner un horizon à cette idée d'émancipation. Et le problème n'est pas simplement programmatique, limité sur tel ou tel point. Aujourd'hui, en disant la gauche est essoufflée, elle ne remplit pas son rôle, mais c'est que l'horizon d'émancipation n'est plus redéfini. Après tout, c'est pour cela qu'hier nous parlions de mai 68, mais il y a tout un ensemble de valeurs ou d'objectifs de 68 qui demanderait bien à être réactualisé, mais en tout cas à reprendre un petit peu, à redonner de l'énergie dans notre société aujourd'hui, où effectivement, c'est le monde de la nostalgie, c'est le monde du désenchantement qui semble dominer. Et ça n'est pas simplement réenchanter la politique, mais c'est redéfinir ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment peut-il être plus libre. Et comment peut-il vivre de façon plus solidaire?
Merci beaucoup, Pierre Rosanvallon. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres. On trouvera sur le site internet de France Culture tous vos ouvrages. Je ne citerai que le dernier qui s'intitule tout simplement, mais c'est déjà tout un programme, Le bon gouvernement, et qui est publié aux éditions du Seuil. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Stéphane Desmond, Véronique Villa, Élodie Royer, Samuel Bernard, Corinne Amard. Vous écoutez France Culture.